Bonjour et bienvenue dans un LEM à la découverte de la mulette perlière. Non, ce n'est pas la petite cousine d'une jument et d'un âne, ni une tête de mule emperlousée, encore moins un petit chausson décoré de colifichets. La mulette perlière ne transporte pas non plus de drogue. La mulette est techniquement un mollusque, c'est une moule, mais d'eau douce. Eh oui, ça existe. Mais ce n'est pas tout. Figurez-vous qu'elle peut fabriquer des perles naturelles, comme certaines huîtres. Pour son malheur. Notre invité va nous expliquer tout ça. Nous saurons aussi pourquoi la mulette perlière mérite qu'on lui consacre toute une première partie de l'EM. C'est Christine Blaise qui est chargée de projet à l'association Bretagne Vivante. Bonjour Christine.
Bonjour.
Et déjà, est-ce qu'il y a une seule espèce de mulette perlière ou est-ce qu'il y en a plusieurs ?
Alors, le nom mulette perlière, oui, c'est sur une espèce. Par contre, les bivalves d'eau douce, déjà, il y en a beaucoup. À l'échelle mondiale, il y en a aux alentours de 850 à 1000 espèces différentes. Après, si on va regarder dans nos cours d'eau, c'est peu connu, mais nous, on a entre 10-20 espèces de moules d'eau douce. Et après, si on rentre en fait dans le groupe des mulettes, en France, on a deux mulettes, c'est-à-dire deux espèces margaritifera, la mulette perlière et la grande mulette. Alors après, pourquoi elle a le nom perlière, alors qu'en fait, il y a d'autres mollusques qui sont capables de faire des perles. Ça, je ne sais pas, peut-être parce que c'est celle qu'on connaissait le plus. Alors, le jour où il a fallu lui donner un nom, on a dit, celle-là, c'était la perlière. Mais en fait, il existe d'autres mollusques qui font des perles, puisqu'en fait, c'est le fait de faire une perle.
Oui,
en fait,
pourquoi est-ce qu'on fait une perle,
ouais. Oui, ben voilà. En fait, c'est quand il y a souvent un grain de sable en fait, qui rentre dans la coquille. Et en fait, c'est pour se défendre de cet intrus que le mollusque crée de la nacre autour de l'intrus. En fait, c'est un peu comme quand vous avez une écharpe qui vous rentre dans la main. Hein. Et c'est pour le bloquer, en fait, pour pas qu'il vienne l'embêter. Donc, en fait, c'est une réaction de défense.
Parce qu'il ne peut pas l'expulser, en fait.
Enfin, non, souvent. Il ne peut pas l'expulser. Enfin, après, du coup, il l'expulse. Après, on retrouve la perle à l'intérieur de la moule quand on l'ouvre, et donc c'est une forme d'expulsion. Ouais.
Et alors la mulette perlière, donc celle-ci en particulier, ouais. Déjà où est-ce qu'elle vit ?
Alors la mulette perlière, en fait, elle est partout en Europe, sur les vieux massifs d'Europe, et puis et également sur la côte est américaine. En fait, elle suit la répartition des populations de salmonidés.
Ah, voilà. On va savoir pourquoi bientôt. Mais alors, donc, elle vit dans les rivières, bien sûr.
Oui, elle vit dans les rivières, exclusivement dans les rivières. Oui.
Et d'eau douce, uniquement.
Et d'eau douce, les eaux fraîches, ce qu'on appelle oligotrophes, c'est-à-dire avec peu de nourriture. Donc souvent, c'est plutôt dans le haut des cours d'eau, ce qu'on appelle les têtes de bassin. C'est plutôt là, et il faut qu'il y ait un peu de courant. En fait, c'est ce qu'on appelle les rivières à truites ou les rivières à saumon pour les gens qui ont l'habitude de pêcher.
Et chez nous, donc, c'est plutôt dans les monts d'Arrée, en fait, quasiment exclusivement, non ? Ou
alors,
les montagnes noires, un peu
Oui, alors c'est les monts d'Arrée et c'est le bassin du Blavet. Donc le bassin du Blavet côté costa-armoricain et côté morbihanais. Mais donc du coup, à chaque fois, plutôt dans le haut du cours d'eau, quoi. Donc dans le centre de la Bretagne.
Donc il vaut mieux qu'il y ait un peu de pente, quoi. En fait, c'est
alors,
ça.
Il
donc
faut qu'il y ait
la montagne entre guillemets.
Oui, c'est ça. Exactement. En fait, les cours d'eau, à quoi ils ressemblent ce sont des cours d'eau de largeur moyenne où il y a un peu de courant avec des endroits où, avec pas mal de cailloux. Du sable grossier. Et puis, c'est ces petits cours d'eau où, de temps en temps, vous avez des petites chutes où voilà, ça va un peu plus rapidement. Donc, c'est ce qu'on appelle les radiers. Puis après, ça peut être un petit peu plus lent, puis un petit peu plus rapide à nouveau. Et donc, c'est ces petits cours d'eau, qui sont assez jolis d'ailleurs, c'est là où elles se trouvent, en fait.
Et elle grande comment à peu près ? Puis elle a quelle couleur ?
Alors, la mulette perlière, les adultes font à peu près 10 cm chez nous.
Ah, quand même ! Ah, oui.
Et elle est de couleur noire. Voilà. Après, il faut savoir aussi que autant, en fait, comme tous les bivalves, hein, la croissance, elle se fait tout au long de leur vie. Donc, en fait, plus ils sont vieux, plus ils sont grands. Et il y a un petit gradient en fait entre le sud-est de l'Europe et le nord-ouest. C'est-à-dire que plus on va monter vers l'Irlande ou la Suède, plus elles vont vivre longtemps. Elles peuvent dépasser les 100 ans et plus elles vont être grandes. Donc voilà, chez nous, la longévité, c'est aux alentours de 70 ans. Et la taille des adultes, ouais, c'est une bonne dizaine de centimètres, quoi.
Et en termes de couleur, elle n'est pas noire comme la moule qu'on mange habituellement, non? C'est ça, elle est plutôt marron avec...
Oh non, elle est assez noire.
Ah ouais,
oh ouais non,
ça
non,
dépend de son âge aussi, peut-être qu'elle...
Voilà, elle, ouais. est marron clair quand elle est très jeune, mais ça, on n'en voit quasiment pas à l'état naturel. Et autrement, non, les adultes ont vraiment une coquille assez noire. Par contre, la forme est complètement différente.
Ah oui, c'est ça, parce qu'elle n'a pas la forme asymétrique. Elle est plutôt symétrique, celle-là, non?
Oui, voilà, elle est... Alors,
c'est difficile à la radio, ouais, mais...
d'expliquer, mais... après, pour ceux qui connaissent, c'est plutôt les anodontes. En fait, parfois, dans les lacs, les gens voient des grosses moules d'eau douce qu'on voit dans les lacs qui sont plutôt
d'accord.
ovales, on va dire. Et voilà.
Ouais. Bon. Et alors, elle a un cycle de vie très particulier. En fait, c'est aussi pour ça qu'elle suscite un intérêt particulier par rapport peut-être à d'autres moules d'eau douce, non ? Enfin, je ne sais pas. Mais elle a un cycle de vie assez spécial qu'il faut raconter absolument.
Ben oui. Alors après, pourquoi elle... C'est vrai que, juste je rebondis sur ce que tu as dit par rapport au fait qu'elle suscite énormément d'intérêt. C'est vrai que parmi les mollusques d'eau douce, c'est celle qui est quasiment la plus connue, la plus étudiée. Pourquoi ? Peut-être aussi parce que le fait qu'elle a été exploitée longtemps pour ses perles a fait que, du coup, on s'y est intéressé. Ça a été une des premières qui a été protégée aussi. Donc, voilà. Et après, effectivement, alors, c'est pas du tout la seule à avoir un cycle biologique aussi compliqué. Par exemple, en Bretagne, on a trois espèces, donc ce qu'on appelle d'anodontes, qui sont assez proches, et trois espèces également d'unios, donc... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails biologiques, mais on va dire que c'est des espèces cousines. Et toutes celles-là, en fait, elles ont besoin de ce qu'on appelle un poisson hôte pour pouvoir se reproduire. Donc la mulette perlière également. Alors qu'est-ce que c'est que... Je finirai après, mais déjà, qu'est-ce que c'est que l'histoire du poisson hôte ? C'est qu'en fait, donc, la mulette perlière, elle vit... l'adulte est enfoui, à peu près la moitié du corps est enfoui dans le sédiment du fond du cours d'eau. Généralement, le mâle et la femelle sont séparés. Enfin, il y a une différence entre les... Voilà, il y a un individu mâle et un individu femelle.
Ah oui, ils ne sont pas hermaphrodites comme les escargots
Non, d'accord. Ça le peut. En condition très défavorable, si elle n'a plus d'autre solution, elle peut devenir hermaphrodite. Mais on considère que ce n'est pas le système principal de reproduction. Voilà, les sexes sont plutôt séparés. Donc, en fait, déjà, le mâle va envoyer l'équivalent de ses spermatozoïdes en fait, dans l'eau. Il va falloir que la femelle les récupère.
Donc, d'une manière ou d'une autre.
D'une manière ou d'une autre. Alors, ce sont des filtreurs passifs, en plus. Donc, il faut que le courant passe au bon endroit.
Ah.
Bon, généralement, en fait, quand elles sont en bonne condition de population, elles vivent très serrées les uns des autres. Donc, ça favorise les échanges. Donc, après, en fait, la femelle va développer ce qu'on appelle des larves ou des glochidies dans son manteau. Elle va... À un moment donné, quand les larves se seront suffisamment développées, elle va les expulser dans le cours d'eau. Et là, à ce moment-là, il faut qu'un jeune poisson passe à proximité. Parce qu'en plus, ce n'est pas n'importe quelle classe d'âge de poisson. Il faut que ce soit des poissons de ce qu'on appelle 0+ ou 1+. Donc, c'est-à-dire les premiers stades des juvéniles de poissons qui passent à proximité. Les larves vont aller se fixer dans les branchies. Elles vont y rester entre 8 et 10 mois, le temps qu'elles se transforment en petites mulettes qui font un demi-millimètre, donc c'est vraiment tout petit. Hein. Et puis, à ce moment-là, elles vont naturellement se décrocher, retomber dans le sédiment, s'enfouir dans le sédiment, parce qu'en fait, pour grandir, elles se mettent dans les à peu près 10 premiers centimètres du fond du cours d'eau. Et là, elles vont grandir, alors, de ce qu'on connaît, entre 5-10 ans. Seulement au bout de...
Sous le sédiment, sans qu'on les voit, quoi.
On ne les voit pas. Mmh. Et donc, au bout d'à peu près 10 ans, elles vont remonter à la surface et elles vont commencer à filtrer l'eau du cours d'eau comme les adultes. Et généralement, elles vont faire une première reproduction entre 10 et 15 ans. C'est-à-dire quand elles seront suffisamment grandes, qu'elles seront ressorties du sédiment, qu'elles auront commencé à filtrer, qu'elles auront encore un peu grandi. Et à ce moment-là, elles vont pouvoir participer à la reproduction. Et elles se reproduisent jusqu'à la fin de leur vie.
Et alors, elles peuvent vivre très longtemps ?
Alors, 70 ans, en grosso modo, en Bretagne. Et alors, en plus, la particularité, c'est que, justement, quand on parlait du fait déjà de ce cycle biologique assez particulier, le fait d'avoir un poisson hôte, donc il y a d'autres espèces qui ont des poissons hôtes. Mais alors, la mulette perlière... Dans le nord de l'Europe, elle n'utilise comme poisson hôte que le saumon.
C'est la question que j'avais posée. Est-ce qu'on peut avoir n'importe quel poisson qui
passe
ou pas ?
Ben non, pas du tout. Que
zut.
Le saumon.
D'accord, ok.
Et alors, on a fait des études au début des travaux dans les années 2010 qu'on a fait sur le massif armoricain. Et là, on avait travaillé avec l'INRA qui avait testé est-ce que c'était la truite ou le saumon qui était le meilleur poisson hôte. Et donc, en fait, on fait des tests. En gros, on met les larves en contact avec les poissons et on regarde la densité d'enkystement dans les branchies. Et en fait, on s'est rendu compte que chez nous, c'est pas le saumon qu'elle veut, c'est la truite.
Ah bon?
Voilà, la
finalement.
Truite Fario.
Ah.
Et puis n'importe quoi, voilà.
C'est... Ah oui, et donc les glauquidies, quand elles sont installées dans les branchies des truites Fario, là, elles ne gênent pas du tout le poisson?
Alors, ça a été étudié également.
Bah oui, j'imagine.
Alors, ce qui se passe, alors voilà, pourquoi tout à l'heure je parlais de l'âge du poisson? C'est que en fait, elles peuvent enkyster un poisson qu'une fois. Après, en fait, le poisson développe des systèmes de défense. Et s'il est à nouveau en contact avec la larve, eh ben non, il a mis en place des systèmes de rejet qui fait qu'il ne peut pas se réenquister une deuxième fois. Enfin, en moyenne, on va dire, il y a peut-être des exceptions. Donc, c'est pour ça qu'en fait, une première fois où la truite a été en contact avec les larves, elle s'est fait parasiter. Enfin,
oui, parasiter, si on veut. Ouais.
Oui, alors, c'est un parasitage dans le sens où elle ne prélève rien sur le poisson. Donc, elle ne prend pas de... Et elle ne va pas lui prendre des nutriments.
D'accord. Donc c'est plutôt une symbiose, quoi, si on veut. Enfin...
Voilà. Alors par contre, maintenant, ça a été étudié normalement. Notamment, c'est nos collègues norvégiens qui ont étudié ça. Alors, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'un poisson qui est fortement enkysté, enfin, qui est fortement parasité, on va dire, donc il y a beaucoup de larves sur lui, ça va réduire sa mobilité. Parce qu'en fait, ça joue sur son oxygénation. Donc du coup, il s'oxygène moins. Donc du coup, pour compenser, il bouge moins et il mange un peu moins. Donc, ils ont même regardé, ils ont regardé comment les poissons se déplaçaient et aussi la croissance. Donc, ça a un impact, ce n'est pas énorme, mais ça a un léger impact sur la croissance parce que pendant ce temps-là, en fait, ils bougent moins, ils s'alimentent moins. Et par contre, c'est très important pour la mulette parce que ça veut dire qu'au moment où le poisson va relâcher les jeunes mulettes, et ben, vu qu'il ne s'est pas beaucoup déplacé, il va les relâcher là où sont déjà les adultes et généralement, c'est les habitats les plus favorables. Et en plus, elles aiment bien vivre ce qu'on appelle en pavage, c'est-à-dire elles aiment bien être toutes les unes avec les autres. Ça a aussi des avantages au niveau de la biologie, parce qu'en fait, ça stabilise le cours d'eau, ça stabilise le sédiment.
Oui, c'est ce que j'avais demandé. En plus, elles ne s'installent peut-être pas dans n'importe quel sédiment. Il ne faut peut-être pas que ça soit trop vaseux ou quoi. Fin...
Ah non, elles ne supportent pas la vase.
Ah, qu'est-ce qu'il faut pour...
Alors, le substrat qu'il leur faut, c'est généralement un sable grossier. Pour l'adulte, à la rigueur, un peu de vase, ce n'est pas grave parce qu'elle, en fait, elle filtre en surface. Mais c'est très important pour le jeune parce que comme le jeune, il est à l'intérieur du sédiment, il faut que le sédiment soit, entre guillemets, suffisamment aéré pour que l'eau puisse bien circuler pour apporter tout simplement l'oxygène et la nourriture. Mmh. Donc, on va dire que tous les interstices entre les petits grains de sable ou le petit gravier est rempli par de la vase, et ben, en fait, les jeunes ne peuvent pas survivre. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, d'ailleurs, dans les cours d'eau breton.
Et il faut pas qu'il y ait non plus... Enfin, il faut qu'il y ait du sédiment. Il y a aussi des endroits de rivière où il n'y a pas de sédiment parce que, je sais pas, le cours d'eau est trop rapide ou...
Oui, non. Si le débit est trop important et que, du coup, on se retrouve juste avec des gros cailloux, non, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait une petite couche de sédiment pour qu'elle puisse s'enfoncer dedans, en fait, tout simplement. Mais voilà. Donc oui, c'est des conditions très spécifiques.
C'est ça, donc elle est très exigeante. Il faut des températures peut-être aussi en plus, ou des acidités d'eau, ou de, enfin je sais pas quoi.
Oui, alors après les cours d'eau breton, ils sont bons. Alors en plus, elle est sur massif granitique en général, pas sur maltif. Alors il y a des petites exceptions, on en trouve à l'heure actuelle sur des massifs schisteux ou des massifs calcaires. mais généralement, c'est le massif granitique.
Parce que c'est
lieu préféré, ouais. Bah, c'est par rapport justement à la composition du cours d'eau. Après, au niveau pH, bah, les massifs granitiques sont aussi des massifs vieux, donc c'est ça qu'elle aime bien. Donc oui, bah, il faut des cours d'eau un peu frais, donc ce qu'on a en centre-Bretagne en fait. Il ne faut pas que les températures montent trop, mais de toute manière, des températures trop élevées sont défavorables également aux espèces de salmonidés. Donc en fait, ça atteint autant la mulette au final que les poissons, et donc pas de poissons,
transport.
Pas de mulette.
Et, oui. Et en plus, peut-être qu'elle est sensible, enfin, les coquillages filtreurs sont sensibles peut-être aux pesticides, aux pollutions diverses, etc.
Oui, bah, bien sûr. Après, là, enfin, on va dire que historiquement, oui, ça a été les problèmes. Si on revient sur les problèmes de disparition, enfin, je ne sais pas si on en est encore à cette partie-là, on peut dire que, on en parlait tout au début, mais la mulette perlière, en fait, il existe l'Union nationale de conservation de la nature, enfin, ce qu'on appelle l'UICN, qui fait un classement, en fait, de degré de danger des espèces. Il existe une liste rouge. Et dans cette liste rouge, on a différents gradients. c'est-à-dire du moins pire au plus pire.
Ça se dit pas, sur bon. Les menaces d'espèces, quoi.
Ouais, voilà. Ouais. Donc vous avez la classe vulnérable, vous avez la classe en danger, la classe en risque d'extinction, et la classe suivante, c'est disparue dans le milieu naturel. Et en fait, en Europe, la mulette perlière, elle est en risque d'extinction.
Ah oui, donc elle est presque au dernier grade.
Elle est presque au dernier grade. Enfin, c'est-à-dire après, c'est disparu dans le milieu naturel, et puis après, c'est disparu totalement, quoi. Donc elle est vraiment à ce niveau-là. Et donc après, quand on regarde historiquement ce qui s'est passé, bah, y a plein de phénomènes qui ont expliqué pourquoi on en est arrivé là.
Voilà, pourquoi ?
Alors, pourquoi ça a mal tourné pour les mulettes perlières ? En fait, tout simplement, ça a commencé par la pêche. Bah voilà, parce qu'elle était perlière, donc elle était connue pour produire des perles, et puis
Avant les huîtres, en fait, quoi. Avant qu'on utilise les grosses huîtres, enfin les huîtres qui...
Artificiellement, ouais. Oui, bah, c'était la perle naturelle. Hein. Donc, en fait, et alors, il se trouve qu'elle a été surpêchée jusqu'au début des années 1900.
Ah oui, c'est assez récent.
Oui, c'est assez récent. Ah, ouais. Et en fait, le problème, c'est qu'on sait maintenant que les mulettes perlières produisent une perle. Il faut à peu près entre 1000 et 3000 mulettes pour avoir une perle.
Ah bon ?
Oui.
Pourquoi ? Mais comment ça ?
Bah parce que ce n'est pas un phénomène qui arrive si souvent.
C'est un phénomène
souvent,
qui arrive tous les 1000 moules. Ah oui, donc on empêchait énormément, puis on les rejetait pas. Enfin, on les...
Bah, elles étaient cassées, même, quoi. Elles étaient mortes, quoi. En fait, on les ouvrait. Voilà. Ah, pas de perles, donc on passait à la suivante. Et puis, celle qui a pas de perles, repart pas, quoi.
On les mangeait pas ?
Non, on les mangeait pas.
Bon.
Elles étaient gâchées pour gâcher, quoi. Donc, effectivement, elles ont été extrêmement pêchées pour pouvoir trouver les perles. On retrouve des images avec des robes de prince ou de princesse avec plein de perles sur les plastrons. Mais quand on voit le nombre de perles qu'il y a sur le plastron, il faut multiplier par 1000, voire 3000 pour avoir pu faire ça. Donc, en fait, elle a été surpêchée. Donc, ça, c'est vraiment la première chose. Qui est intervenue. Et puis en plus, je vous dis, comme elle était en pavage, du coup,
facile.
Ouais, on allait dans le cours d'eau. Et puis quand on revoit les témoignages de ces époques-là, elle était hyper courante, quoi. Donc en fait, il y en avait partout.
On n'avait pas l'impression qu'elle allait venir à manquer aussi.
Non, pas du tout.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et en fait, le dernier pêcheur de mulettes perlières en Bretagne était sur l'Audet jusqu'en 1950.
Ah oui, quand même.
Ah oui, non, ça a duré. Ouais. Après, c'est rajouté évidemment le développement des activités humaines qui a pollué les cours d'eau, comme on le sait. S'est développé également l'aménagement du paysage. Donc les cours d'eau, parfois c'était plus facile quand ils coulent bien droit, que les berges sont pas trop larges, l'eau reste bien dans son cours d'eau le plus petit possible pour avoir une berge bien droite, donc ce genre de choses, forcément.
Les canalisations en général, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc tout ce qui va être drainage, canalisation, après tout ce qui est, tout ce qui va influencer le débit, la température du cours d'eau et les sédiments. Donc le débit, ça va être quand on rectifie un cours d'eau. La température, ça va être quand vous mettez des barrages ou quand vous mettez des lacs. Ça change les régimes thermiques des cours d'eau. Après, tout ce qui est apport de sédiments dans le cours d'eau, de sédiments fins, qui va justement avoir une tendance à envaser, ça va être quand vous fragilisez les berges, par exemple avec l'exploitation de ce qu'on appelle la ripisive, c'est-à-dire les arbres qui sont sur les berges. La coupe à blanc aussi, qui fait qu'il y a plus de lumière, donc ça va changer la température de l'eau.
Les ragondins qui détruisent les berges. Enfin, ça, c'est plus récent, mais
c'est plus récent, mais aussi les espèces exotiques. En fait, tout ce qui perturbe le fonctionnement naturel d'un cours d'eau impacte la mulette perlière, quoi. Donc c'est un peu énorme. Aujourd'hui...
Plus ce qui impacte les saumons poissons. Et les truites.
Voilà. Donc tout ce qui va être barrage donc remonter, buse mal calibrée qui fait que le poisson ne peut pas remonter, ce genre de choses. Oui, donc souvent, on travaille beaucoup, partout en France, quand on travaille sur la mulette perlière, on travaille beaucoup avec les fédérations de pêche, tous les gens qui travaillent sur les poissons.
C'est ce que j'allais dire.
C'est combat commun, quoi.
Ouais. Et quand est-ce qu'on a pris conscience, quand est-ce qu'on a commencé à lancer des programmes de préservation de la mulette perlière, du coup ?
Alors, la mulette perlière est un des premiers mollusques qui a été mis sur les listes d'espèces protégées. Donc, c'est 1979. Donc, c'est assez vieux. Après, en France... on va dire que pendant très longtemps, on s'est un peu limité à faire des recensements. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que les mollusques, c'est quand même... c'est pas comme un oiseau ou un mammifère.
Excitant,
Voilà, c'est ça.
Même avec des perles dedans.
Parce que ça, c'était un peu...
Ça ne soulève pas l'enthousiasme des foules,
dire. Non, donc en fait, la connaissance aussi, elle était faible. Donc pendant très très longtemps, en fait, on allait... au moins à faire les inventaires, savoir où elles étaient et tout ça. Donc, et après, c'est plutôt en Allemagne et en Tchécoslovaquie où ils ont été les premiers en fait, à faire des programmes de protection, de renforcement, de restauration des habitats. En fait, bah, par exemple, les programmes tchèques, qui sont quasiment dans les plus vieux, ont commencé en 1990 en fait, à faire des actions de restauration et de sauvegarde des mulettes perlières. Et puis voilà quoi. On a, maintenant, à l'échelle européenne, on a un peu tout le monde qui s'y met, mais on est vraiment
Ouais.
Enfin, est-ce qu'il est encore temps ? C'est ça. On le verra.
Ouais. Et alors, Bretagne Vivante, donc, depuis quand sans...
Alors, Bretagne Vivante, en fait, c'est fin des années 90, ou plutôt début des années 2000, en fait, que nos collègues qui étaient dans le massif armoricain ont commencé à faire du recensement. Parce qu'à l'époque, c'était là où elle était enfin, c'est là où on a commencé à la connaître. Jusqu'au moment où en fait on a développé suffisamment de connaissances pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle un programme LIFE qui permettait en fait donc c'est des fonds européens à 50%. Du coup ça permet d'avoir quand même des ressources financières qui permettent vraiment de développer des programmes d'envergure.
Et alors c'était quoi
Ce qui est intéressant en plus c'est que ce programme LIFE c'était pas un programme breton, c'était un programme massif armoricain. Donc c'était les cours d'eau de Bretagne et de Basse-Normandie. Avec le CPIE des Collines Normandes et la Fédération de pêche du Finistère. Donc c'était vraiment sur pas que en Bretagne quoi. Donc ça, c'était assez intéressant d'avoir une vision un peu globale du massif armoricain et pas juste régionale, quoi. Donc ça, c'était début des années 90. Donc on s'est focalisé sur les trois populations qu'on connaissait le mieux à l'heure actuelle, enfin au moment où ils ont commencé le programme, parce que depuis, la connaissance évolue aussi. Donc c'était sur les Lèzes, donc dans le Finistère, sur le ruisseau du Lor, c'est le haut bassin du Blavet, c'est dans les Côtes d'Armor, et sur le ruisseau du Bonnechère, c'est un affluent de la Sarre, qui est aussi le bassin versant du Blavet, mais côté morbihanais. Donc ça, c'est pour la partie Bretagne. Et donc, en fait, c'était connaissance de la population, voir quels étaient les freins, même si on savait globalement que c'était en fait la partie survie des juvéniles dans le sédiment qui posait problème. Donc avec des projets de restauration des habitats, de suivi physico-chimique, de suivi biologique. Et alors, la particularité de ce programme, mais non des moindres, mais qui est fait aussi à d'autres échelles européennes, mais qu'on a repris à notre compte en France, c'était la situation... Enfin, on considérait que la situation était tellement, tellement précaire et que pour la restauration des habitats, il fallait de la connaissance plus des travaux. Ça allait quand même être un peu long. Donc, on a fait ce qu'on appelle un programme de renforcement, c'est-à-dire qu'on a décidé de soutenir les populations en remettant des juvéniles dans le cours d'eau.
Alors, c'est une question que j'allais poser. Est-ce qu'on peut les élever, les mulettes perrières ?
Voilà, c'est ça, peut.
Comment on fait concrètement dans les bassins
Alors, il y a plusieurs méthodes. Si on va voir, par exemple, chez les Anglais, eux, ce qu'ils ont fait carrément, c'est qu'ils prélèvent les adultes dans le cours d'eau, ils les mènent en captivité et ils font faire la reproduction en captivité. Donc, du coup, ils peuvent contrôler en fait, le cycle complet de reproduction et donc produire des jeunes.
Mais alors, ils mettent des saumons, ils font des bassins qui s'agitent, etc., avec des sédiments.
Non, alors nous, on a fait une autre manip, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris les adultes. En fait, on suit ce qu'on appelle la gravidité des adultes. En gros, c'est quand ils sont enceintes. Enfin, ça se dit pas pour des mollusques, quoi. Mais, donc, on suit la gravidité des moules. Les petites larves qu'elles développent à l'intérieur de leur manteau, et elles ont des stades aussi de croissance. D'accord. Et elles ont un stade de 1 à 5. Et quand elles sont à 5, ça veut dire qu'elles vont être matures, qu'elles vont être expulsées.
Donc, on les prélève à ce moment-là.
Alors, à ce moment-là, on les embête un petit peu pour qu'elles expulsent leurs larves, mais dans des boîtes. Comme ça, on peut récupérer les larves. Donc, on les stresse un peu, faut bien dire, on les embête un peu. Mais bon, du coup, on peut récupérer jusqu'à 2 millions de larves. On les emmène en station piscicole, où là, ils ont des truites en captivité. Ils font la mise en contact artificiellement, c'est-à-dire qu'au lieu que ça soit au bon vouloir du courant, là, on met un certain nombre de truites avec un certain nombre de volumes de larves. On les laisse un petit peu, le temps qu'on pense que ça se passe bien. Et puis après, en fait, ils élèvent les truites. Enfin, ils continuent à élever les truites. Ils font des vérifications en allant prélever les branchies sur un ou deux poissons pour être sûr que ça a bien marché. Et puis après, ils attendent les 8 à 10 mois avec les poissons qui sont en captivité.
Même en captivité, ça fonctionne, quoi. Il n'y a pas besoin de relâcher les trucs dans la rivière.
Non,
quoi.
Pas ouais. du tout. Ah ouais, ouais, donc les larves, une fois qu'elles sont enkystées, que le poisson, ils sont en captivité. Du moment que le poisson va bien, elles
d'accord.
vont bien, quoi.
D'accord.
Donc après, les piscicultures savent élever du poisson en captivité, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Après, on se base sur leur connaissance technique. Et puis, en fait, après, ils ont des systèmes où ils mettent les truites dans des endroits où quand les petites mulettes vont se décrocher, ils ont des systèmes de filtration où ils peuvent récupérer les mulettes. Donc ils appellent ça des récoltes. En fait, ils récoltent quand ça tombe. Et puis après, ils ont des grands bacs en sable dans lesquels ils mettent les mulettes. Donc en fait, ils ont reconstitué un cycle quasi naturel. Enfin, ils ont reconstitué un système de rivière. Ils ont un banc de sable avec du courant qui passe. Par contre, justement, pour ne pas avoir de risque de pollution ou de variation de la qualité de l'eau, c'est un circuit fermé. Et puis, ils les nourrissent.
D'accord. Mais elles ne sont pas remises dans la rivière après, quoi.
Alors ça, c'est l'objectif.
Ouais.
Une fois qu'elles ont bien grandi, nous, après, on les remet dans les rivières. Ouais.
D'accord. Bon.
Ça, c'était le projet du... Enfin, c'est le projet qu'on a commencé en 2010, quoi.
Voilà. Mais ce n'est pas assez long. Et la mulette n'est pas encore sauvée. Là, on arrive à la fin de l'émission et on va terminer sur une note pas tout à fait optimiste. Mais on va dire qu'il y a encore du boulot, quoi. C'est ça.
Il y a encore beaucoup de travail, oui.
Bon.
Ouais, ouais.
Eh bien, alors, on reprendra régulièrement des nouvelles de la mulette perlière. Merci, Christine Blaise. Et on retrouvera Bretagne vivante le 2 avril, si tout va bien. Et en attendant, vous pouvez réécouter cet entretien sur le site internet de Radio Évasion.